cérémonie depuis qu'on a commencé, reconnaître les grands travaux que le pasteur Emmanuel Mupangela est en train d'abattre. On parle d'Allo Ministry, on parle de moi comme initiateur, mais je dois vous avouer que j'ai subi le travail qui s'est fait. C'est lui comme un peu le capitaine d'un bateau, comme le pilote d'un avion conduit tout. En général, je viens simplement, il discute avec moi, on veut faire ceci, mais dans la pratique, c'est lui qui fait tout. Je dois utiliser un terme plus approprié. C'est lui qui fait le sale boulot. Est-ce qu'on peut encourager ses bien-aimés ainsi que son épouse? Merci encore une fois. Merci. Mais je voudrais aussi, on l'a mentionné tout au début, je pense qu'il n'était pas encore là, reconnaître l'apport, l'encouragement, les conseils d'un homme que Dieu a placé sur ma route. Très, très jeune, il m'a connu, je pense, je portais encore la culotte et il a été avec un autre vieux pasteur, des encadreurs de ma famille. Et Dieu a su nous faire revenir ensemble encore au bon moment. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai un attachement particulier. C'est le révérend pasteur Michin Lou. Est-ce qu'on peut... Mais je voudrais aussi et surtout mentionner un ami. Vous voyez peut-être ses travaux, mais c'est lui, il a vu ça avant moi. Et il a vu cette vision et quand moi j'hésitais, lui m'encourageait, il me disait, Roland, tu as appelé à bien plus que être pasteur d'une église locale. Dieu t'a appelé à être un berger des bergers, à exercer une influence. Va au-delà des quatre murs. Et c'est toujours merveilleux que d'avoir des amis comme ça, des vrais, à vos côtés. Si on peut m'aider à reconnaître mon ami, mon frère, Honoré Kenabantou. Ah, Papa Honoré, je voudrais te dire au-delà de Viviane, qui est la rencontre la plus importante après les Seigneurs, tu fais partie des rencontres qui ont compté, qui comptent dans ma vie. Que Dieu te bénisse et te bénisse abondamment. Je disais, allez-y. Vous savez, il y a des gens pour réaliser leur importance et leur apport dans votre vie. Il est bon de réfléchir, et si je ne l'avais pas rencontré, et s'il n'était pas venu, vous essayez d'enlever tout ce que vous avez reçu par cette personne et vous vous rendez compte de tout ce que cette personne a été. Alors j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous avons nos syllabus, mais je dois avouer que dans ces syllabus, cette dernière clé n'est pas aussi autant étayée. Donc ne vous contentez pas du syllabus. C'est toujours aussi par rapport au syllabus, c'est une première production. Il est fort possible qu'il puisse y avoir quelques ratés, quelques manquements à quelques endroits. N'hésitez pas si vous retrouvez quelques erreurs de frappe, d'orthographe, je ne sais pas moi, de formulation, faire des remarques et les faire parvenir au niveau de la coordination, afin que la présentation prochaine puisse approcher de la perfection. J'aimerais cette fin de matinée parler sur la 18e clé, éviter l'orgueil. Éviter l'orgueil. Et j'aimerais, avec votre permission, lire les livres de Daniel. Cette lecture, je vais la faire dans sa presque globalité au début, mais j'en ferai plus mention vers la fin. Daniel, au chapitre 4. Alors, nous lirons d'abord du verset 10 au verset 17. Et puis, nous lirons du verset 20 au verset 27. Et puis, je mentionnerai quand même aussi la fourchette allant du verset 28 au verset 33. Elle est assez longue, la lecture, mais je me permets quand même de la faire. Voici la vision de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, j'ai regardé, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendu des cieux. Il cria avec force et parla ainsi, « Abattez l'arbre, coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits. » que les bêtes fuient des dessus et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre les troncs où se trouvent les racines. Liez-les avec des chaînes de fer, des reins, parmi l'herbe des champs, qu'ils soient trempés de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour pâturage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que les Très-Hauts dominent sur les reins des hommes, qu'il les donne à qui lui plaît et qu'il élève les plus vils des hommes. Verset 20, explication du songe. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, et dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-les, mais laissez en terre les troncs où se trouvent les racines, liez-les avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'ils soient trempés de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. » Voici l'explication au roi. Voici les décrets du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trompé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les reins des hommes et qu'il les donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser les troncs où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant des compassions envers les malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger. Avertissement est donné à ces rois qui est venu de nulle part et que Dieu a rendu capable de devenir grand. Voilà ce que Dieu veut. Si tu ne fais pas ça, et comme Dieu agit toujours, la punition va s'imposer. Mais si tu changes ton comportement, la punition ne va pas s'imposer. Mais malheureusement, la Bible dit à partir du verset 28, « Toutes ces choses se sont accomplies sous le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il s'est promené dans les palais royaux à Babylone, le roi prit la parole et dit, alors que c'est l'orgueil, la suffisance qui lui sont reprochés, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie ? Chaque fois que l'orgueil s'invite, c'est les jeux que j'ai bâti comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » Verset 31 dit, la parole était encore dans sa bouche, dans la bouche du roi plutôt, qu'une voix descendue du ciel, apprends roi qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que les Très-Hauts dominent sur le règne des hommes et qu'il les donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabucodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme le bœuf. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux méconnaissables. Les gens qui pouvaient les voir dans cet état barbu, les ongles presque comme un oiseau, ils peuvent se poser la question, est-ce la même personne? Est-ce le même homme? Éviter l'orgueil. Qu'est-ce donc l'orgueil? L'orgueil, c'est un sentiment de suffisance et de prise de conscience exagérée de sa valeur personnelle. Sentiment de suffisance. En lingala, on dit que komitonda, komiyoka. Et de prise de conscience, mais j'insiste sur les termes, exagérée de sa valeur personnelle. Et là, je me redis que la prise de conscience de la valeur personnelle n'est pas forcément une mauvaise chose. Prendre conscience qu'on est apte dans un certain domaine, on est capable de faire certaines choses, cette prise de conscience en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Deux choses rendent cette prise de conscience négative. Premièrement, sa source. Nous-mêmes, nos aptitudes, nos capacités. Je suis capable de faire ceci par moi-même. Ce n'est pas un apport qui me vient de l'extérieur. C'est je. Mais deuxième chose qui rend cette prise de conscience négative, c'est les degrés de cette prise de conscience. Au-delà de nos limites. La Bible nous montre des exemples de personnes suffisamment conscientes de leurs valeurs sans que cela soit de l'orgueil. Dans Psaume 139, au verset 14, David se regardant lui-même, il dit « J'étais loup de ce que je suis une créature si merveilleuse. » On voit prise de conscience que je suis fait d'une certaine manière, non sans aucun orgueil. Et tes œuvres sont admirables, mon âme les reconnaît. Prise de conscience, mais à la fois prise de conscience que ce que je suis, c'est à cause de Dieu. Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 4, on voit aussi un homme qui a conscience qu'il a des atouts que d'autres n'ont pas. Mais on ne sent pas de l'orgueil dedans. L'apôtre Paul, parlant de lui-même, et ça c'est dans le domaine de la connaissance, il écrit aux Éphésiens, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. La première fois quand j'ai lu ça en tant que nouveau converti, j'étais choqué. Il dit au verset 4, mais en le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Apparemment, on peut dire, ça c'est de la suffisance. Mais j'en parlerai plus loin, on sent simplement que c'est de l'assurance. L'assurance, mais il dit, c'est par révélation. C'est vrai, je connais, mais je ne le connais pas par moi-même. Quelqu'un m'a rendu capable de connaître. Et j'aimerais encore aller plus loin en disant que toute assurance personnelle n'est pas forcément de l'orgueil. Et la Bible, comme je l'ai dit, nous donne plusieurs exemples. Et Dieu ne nous appelle pas à manquer d'assurance personnelle. Dans Jérémie chapitre 9, versets 23 à 24, la Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel. » Que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse et que les forts ne se glorifient pas de sa force. Que les riches ne se glorifient pas de sa richesse, mais bizarre. Mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. L'assurance. Ganaye binzambe. Gaza moussaï nanzambe. Koloa bengangaye. Rien de négatif. S'il veut se glorifier, il se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 10, on voit l'apôtre Paul qui dit, j'ai travaillé plus que eux tous, assurance. Je parlerai plus loin même, apparemment comparaison, mais il ajoute, toutefois non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Nous avons tous prêché, nous avons tous bâti des églises, nous avons tous implanté, mais Paul dit, moi je fais plus. Il est assuré de cela. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de l'évidence. C'est une réalité. Et j'aimerais peut-être encore qu'on lise cette portion des Écritures où on voit encore l'apôtre Paul en train de s'exprimer. Et on sent à la fois l'assurance personnelle qu'il a par rapport à ce qu'il sait avoir reçu de Dieu et son humilité aussi qui est un peu en train de se battre. Il dit, je dois parler, mais en même temps, sens, c'est comme s'il veut dire, j'aimerais pas aller plus loin. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, notez, puis je vais faire la lecture, versets 17 à 18, 21 à 23, et puis 30 à 33. Encore 2 Corinthiens 11, 17, 18, 21, 23, et puis 30 à 33. Écoutez ce qu'il dit. Ce que j'ai dit, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne dis pas selon les seigneurs, mais il dit comme par folie. Puisqu'il y en a plusieurs qui se glorifient selon la chair, il dit, je me glorifierai aussi. Waouh, ça c'est Paul. Il dit, puisque certains qui n'ont rien fait veulent se faire passer comme ayant fait quelque chose, bon, je vais quand même un peu essayer de parler. Verset 21, j'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui est extravague. Je le suis plus encore. Non seulement Nazam, mais Namakamsun à l'équipe. Par les travaux, bien plus. par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus. On sent aucun orgueil, mais c'est simplement de l'assurance qu'il a par rapport à ce qu'il sait qu'il a fait. Verset 30 et 30 jusqu'à 33. S'il faut se glorifier de ma faiblesse, s'il faut se glorifier plutôt, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement sait que je ne mens point. Il ajoute, il y a Damas. Le gouverneur du roi Aritas faisait garder la vie des Damascéniens pour se saisir de moi. Et il ajoute, il parle de toute son expérience. Allons-y encore, 2 Corinthiens chapitre 11, chapitre 12 plutôt, versets 1 à 6. Et comme je disais, on sent qu'il est en train de se battre entre son côté humble, mais son désir de parler des choses qu'il connaît. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel. Ce fut dans son corps, ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans les paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Waouh! Si je peux le faire, je ne serai pas un insensé, car je dirai la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Donc, l'orgueil est, comme je l'ai dit, dans le fait d'être centré sur soi-même. Mais deuxièmement, l'orgueil est dans les degrés exagérés de cette conscience de certaines choses. Et par rapport à l'orgueil, il y a des notions importantes que nous allons mentionner sous forme de principes. La toute première notion, que je rige aussi en principe, c'est que l'orgueil est un sentiment subtil et sournois. L'orgueil est un sentiment subtil et sournois. C'est-à-dire qu'il s'invite doucement dans notre vie et sans bruit. L'orgueil n'annonce jamais comme la météo, je vais venir demain. L'orgueil ne vient jamais avec tambour et trompette. L'orgueil vient comme un petit chat, on se rend compte, il est déjà là. Subtil, sournois, qui s'invite doucement, sans bruit, et dont il est difficile de reconnaître la présence. Si je posais la question, en cette fin de matinée, y a-t-il un orgueilleux ici? Si tu la lèves la main. C'est sûr, très peu ou personne ne les reconnaîtra. Mais Dieu sait qui est orgueilleux, qui ne l'est pas. Certains n'ont même pas besoin de dire, regarde simplement la manière dont il marche. Et la manière dont il vous regarde. Et la manière dont il vous salue. Alors, ça va? La manière dont il appelle Kakamutoyo. Kakaji. Yemutu. Bisoba diminutif yabato. Dans 2 Chroniques chapitre 26, verset 15 à 16, la Bible parle du jeune Ozias qui a commencé faiblement et Dieu l'a visité. Il a fait des inventions et la Bible dit il fut merveilleusement soutenu par l'Éternel jusqu'à ce qu'il devint puissant. Et le terme puissant là veut dire influent. Mais le verset 16, rempli de tristesse. Mais lorsqu'il devint puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. D'autres versions disent, sa puissance les rendit orgueilleux. La version parole de vie dit, à cause de sa puissance, il devint orgueilleux. Deuxième notion, que je rige aussi en principe, c'est que l'orgueil pousse toujours à une attitude incontournable, l'arrogance, ainsi que la suffisance. L'orgueil pousse toujours à une attitude incontournable, l'arrogance ainsi que la suffisance. Comme je l'ai mentionné, une conscience exagérée de son importance, de ses aptitudes, de ses capacités, mais accompagnée de l'autre côté par les mépris des autres. On est conscient de ce que l'on c'est dont on est capable, mais en même temps, il y a un mépris. Conscient que peut-être tu parles bien anglais, que tu parles bien français, diction, article à la place, mais mépris pour tout celui qui peut mettre le à la place du là. Papa Bouto, ça sera français, dit.
Ata botoni na molimo français papa, Maurice Grévy ça coupe pas. Mépris des autres.
C'est comme s'il y avait des hommes de première qualité et d'autres de seconde qualité. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 36, la Bible nous parle de Théudas, rempli d'orgueil. Écoutez ce que la Bible dit, il s'est donné pour quelque chose. On ne l'est donné pas, c'est lui qui s'est donné. Il s'est donné pour quelque chose. La version française courante dit, il prétendait être un personnage important. Et Darby dit, il s'est disait quelque chose. Nous en parlerons plus loin quand la Bible dit, laisse les autres te louer, mais pas toi-même. Je l'ai dit il y a quelques semaines à l'église, si un jour, et une fourchette de temps, où j'aime pas regarder la télé chez nous ce dimanche, entre midi et 15 heures, c'est le règne de l'orgueil et de la suffisance. Vous verrez quelqu'un passer et dire, « Bah, t'as l'air qu'on a quoi faire ?» Un autre vient et dit, « Ngaï, Jésus de Mingongo, des nuances. » Un autre dit, hein, dit sur la deuxième voie, c'est dans l'université, mais on a sur une école maternelle. Et jamais je n'ai vu quelqu'un passer et dire du bien de quelqu'un d'autre. J'ai vu quelqu'un, je me dis, mais il peut y avoir, mais, oh, pas y avoir bien, mais tout n'aille. Hein? Non, ça, il s'arrête, c'est un engagement. Donc, tout pour finalement dire, c'est moi et pas l'autre. Aide-moi à poser la question à ton voisin, ce qu'on dit Marabaninga. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, si déjà tu ne sais pas reconnaître les autres, mais ne va pas jusqu'à les abaisser. Quelqu'un dit la grandeur qui se bâtit en abaissant les autres n'est pas de la grandeur. Parce que le vrai grand n'a pas peur d'élever les autres. Il pense pas que s'il élève les autres, lui, il est diminué. Dans Luc chapitre 18, verset 10 au verset 12, la Bible exprime encore mieux ses côtés non seulement suffisants, mais méprisants. Écoutez ce que la Bible dit, et c'est Jésus qui parle. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes. » Qui te l'a demandé? Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même je ne suis pas comme ces publicains. Oh, toi tu es venu prier, papa, prie. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Proverbe 16, 18 dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Suffisance. Suffisance. Troisième notion que je rige aussi en principe, c'est que l'arrogance qui accompagne l'orgueil se manifeste toujours en attitude et en parole. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'orgueil, là où il est, n'est jamais caché. Il finit toujours par se voir. En attitude, c'est-à-dire comportement, et en parole. Toujours, toujours. Et le comble, c'est qu'en attitude, il peut aller jusqu'au mépris, mais même jusqu'au mépris, non seulement des hommes, mais même de Dieu. Vous connaissez l'histoire de ce monsieur, silencieux, tout le monde raconte ses exploits. Et puis lui, il s'élève, il dit, mais il ne va pas comme ça, comme ça. Quelqu'un lui a dit c'est jamais caché. Avec de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce que vous êtes va toujours finir par ressortir. Proverbe 30, verset 8 à 9. Je prie que nous ne puissions pas arriver là. Un homme prie, il demande à Dieu de ne pas lui donner certaines choses. Il dit, ne me donne ni richesse exagérée, ni pauvreté. Mais il montre combien la richesse exagérée peut amener au piège de l'orgueil. Il dit, si j'ai la richesse exagérée, j'ai de peur que dans l'abondance, je ne te réunis et dise, qui est l'Éternel? Un ami qui est ici me relate l'histoire, ils sont arrivés chez un des grands du pays.
et qui a fait cadeau à quelques personnes d'un peu de billets de banque. Et la personne dit, papa, coula pambolo, dit, tenga, j'en ai besoin de pambolo, t'es bien de vos anangos besoin. Dans les quartiers où j'ai grandi, un homme suffisant, rempli, il était colonel à l'époque de la DSP. Il avait une maison en étage, je pense, plus de 4 étages, et il payait ses travailleurs en étant au-dessus. Et il appelait Kimbilangudi et il jetait les salaires, et toi tu suivais. Makengo, et puis il jetait. Ouf. Deutéronome chapitre 8, versets 12 à 14, ainsi que verset 17. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi. Verset 14, prends garde que ton cœur ne s'enfle. J'aimerais dire en lingala, il vit sans permission d'abisso. Prends garde, que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel. Le verset 17 va plus loin. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. Tu oublies la source et tu deviens toi-même la source. C'est moi-même que je me suis battu. Quatrième notion, que nous érigeons aussi en principe, c'est que l'orgueil ne nous laisse jamais intact. L'orgueil nous abîme d'abord nous-mêmes. Et l'orgueil abîme notre entourage. L'orgueil nous dérange nous-mêmes à l'intérieur. Mais l'orgueil dérange tout autour de nous. Que c'est difficile de vivre avec un orgueilleux. Un mari orgueilleux. Une femme orgueilleuse. Un collaborateur orgueilleux. Ça dérange. Il vous abaisse. C'est lui le centre du monde. Seulement ce qu'il est, lui fait est bon. Jérémie chapitre 49 au verset 16 dit, ta présomption, l'orgueil de ton corps, de ton cœur t'a égaré. Une autre version dit, t'a fait sortir du chemin. L'orgueil ne garde jamais sur le bon et droit chemin. Ça nous amène à l'extérieur. Et vous savez, l'une des définitions du péché, c'est passer à côté. Et l'orgueil nous amène à passer à côté. Aide-moi à dire à ton voisin, fais attention à l'orgueil. Dans Galates chapitre 6, au verset 3, la Bible dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Il n'abuse pas d'abord l'extérieur, il s'abuse lui-même. La Bible dit, il n'est rien, mais il pense être quelque chose. Il s'abuse lui-même. Mentionnez ce passage, Ézéchiel chapitre 28, verset 1 à 10, la Bible nous montre comment les premiers grands conflits de l'univers a eu comme point de départ l'orgueil. Dieu avait un collaborateur merveilleux appelé Lucifer, qui s'occupait de la louange et de l'adoration. Et Dieu l'a équipé de toutes sortes de vertus. Un peu comme qui dirait la faute de Dieu, c'est de l'avoir équipé. Et quand vous lisez ce passage, vous voyez la suffisance. Rempli d'orgueil, il a voulu même prendre la place de Dieu. Je me lèverai jusqu'aux cieux, je ferai ceci. Alors Dieu décide, il dit, je ferai le contraire. Garde-moi de l'orgueil, car il ne me détruit pas seulement, mais fait de moi un destructeur tout autour. Cinquième notion, attachée à l'orgueil, et que nous érigeons aussi en principe, c'est que l'orgueil tire sa source de deux directions. D'abord, premièrement, nous-mêmes, et deuxièmement, les autres. Et la plupart des fois, ces deux sources sont interdépendantes. Pour l'orgueilleux, le regard des autres compte beaucoup. C'est de là qu'il tire sa valeur. C'est de là qu'il tire sa force. L'orgueilleux vit de par le feedback qu'on lui rend. Dans Jean chapitre 5, au verset 41, ainsi qu'à 44, Jésus va blâmer un groupe de gens en leur disant, « Je ne tire pas ma gloire des hommes. » Il ajoutera au verset 44, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire de Dieu ?» Et le mot « gloire » là veut dire « poids, valeur ». Vous tirez votre valeur des autres. Les uns des autres. Vous voulez que les autres puissent vous donner un poids. L'orgueilleux, comme je l'ai dit, autant il a sa source au niveau interne, mais autant il est souvent dépendant du regard des autres, de leur appréciation. Il en est même esclave. Il est prêt à tout pour que les autres disent du bien de lui. L'orgueilleux est prêt à tout pour cela. Sixième notion, établie aussi comme principe, c'est que l'orgueilleux est prêt à tout pour se rendre important aux yeux des autres.
Il est prêt à créer des artifices. Il est prêt même au mensonge. L'orgueilleux peut se promener avec une clé qu'il tape sans avoir non seulement un véhicule, mais même un vélo. Vous les voyez au Grand Hôtel avec un trousseau de clés Prado. Il dira même Isalibanda. Tout ça pour l'orgueilleux prêt au mensonge, pour se rendre important. Bon, vacances passées au Tomanak na Dubaï, puis au Kitaki na Thaïlande, au Kitaki Wapi. Il veut se rendre important. J'en parlerai encore plus loin. Et son importance, il attire des fois dans ce qu'il estime être des gens importants. Mais un gars, il va mariner, on a tout bétarna bango bil. Comme quelqu'un dit, quand nous prenons les cigares avec telle personne, est-ce que vous étiez là? Est-ce qu'on a besoin de savoir que bon, il a un cigare? Orgueilleux prêt à tout. 1 Roi chapitre 1 verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Adonijah, fils de Haggith, se laissant emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai le roi. L'orgueil l'emporte. Mais écoutez ce que la Bible dit. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Il crée des artifices. Il veut se rendre important. Marchez devant moi. Vous faites les gardes du corps. Je veux que l'on voie combien je suis important. 1 Samuel, plutôt 2e livre de Samuel, au chapitre 1er, verset 2 à 10, nous parle du jeune homme qui malheureusement est mort. Quand nous lisons bien les textes de 1 Samuel, au chapitre 31, verset 3 à 4, on se rend compte que la mort de Saül, c'est un suicide. L'abbé dit, l'effort de guerre se porta sur lui. Et quand il a vu que les ennemis voulaient l'atteindre, l'abbé dit lui-même, il a placé son épée et il est tombé dessus. Mais un jeune homme a voulu se rendre important. Il a couru. Il est venu dire à David, je viens du champ de bataille. Et je vis le roi Saül qui est en train de lutter contre la mort. Non, je n'ai pas voulu que ces incirconcis puissent les toucher. Et c'est moi qui lui ai donné la mort, comme pour dire, Moutoua Louara Omabe, Gana Salipoa Koufa. L'orgueil, prêt à se vanter de ce qu'il n'a pas ou de ce qu'il n'est pas, pourvu qu'il soit important à ses propres yeux. Vous savez, l'orgueilleux, des fois, il s'est fait passer plusieurs fois pour ce qu'il n'est pas, qu'il finit par croire qu'il est. 7e notion que nous érigeons aussi en principe, c'est que Dieu n'aime pas l'orgueil, mais aussi les orgueilleux. Aide-moi à dire à ton voisin, ce que vous avez en gros, mais dis-le calmement, mais n'aie pas que vous avez en gros. Mais son gré quand même, mais ce que vous avez en gros, il n'y a pas qu'un colo à l'ingagayote. 1 Pierre chapitre 5 au verset 5, l'abbé dit, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Il résiste, il est résistant comme à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Dieu devient un maï-maï, permettez-moi les termes, pour les orgueilleux. Il ne vous laissera jamais en paix. Psaume 31, verset 24, l'Éternel garde les fidèles, mais il punit sévèrement les orgueilleux. Sévèrement. Proverbe chapitre 15, verset 25, les sages disent, l'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Quand il voit un orgueilleux, il ne délègue pas les anges pour aller faire ses travaux. Lui-même s'élève et il vient renverser, réduire à néant. Ésaïe au chapitre 2, au verset 11, elle avait dit, l'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ces jours-là. Osée, au chapitre 7, au verset 10, elle avait dit, l'orgueil d'Israël témoigne contre lui et il ne verra pas l'Éternel. Ça témoigne contre lui. Je lisais ce matin ce texte de Ésaïe chapitre 22, verset 15 au verset 24. Waouh, que des paroles dures que Jéhovah adresse vis-à-vis d'un homme. Un homme qu'il a pris de nulle part et qui, dans sa grâce, Dieu lui-même l'a élevé, Dieu l'a, lui a confié des choses qui normalement il n'aurait pas dû avoir. Mais à peine Dieu lui a donné, il a radicalement changé. J'en parle souvent. Quelqu'un dit l'élévation, la gloire sont de vrais tests du caractère. Ça révèle qui nous sommes réellement. Et cet homme a tellement changé que le Dieu qui l'a fait devenir ce qu'il est devenu s'élève comme son adversaire premier. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Va vers ces courtisans. C'est comme ça qu'il appelle l'homme que lui-même a érigé. Ces courtisans. Va vers Shebna, gouverneur du palais, et pose-lui la question. Qu'y a-t-il à toi ici? Que crées-tu ici, un sépulcre? Il s'est créé un sépulcre sur la hauteur. Il s'est taillé une demeure dans les rocs. Et écoutez ce que Dieu dit. Voici, l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote. Il te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Là, tu mourras. Là seront tes charmes magnifiques. Ô toi, l'opprobre de la maison de ton père. Dieu dit au verset 19, je te chasserai de ton poste. Il ne dit pas tu seras chassé. Il dit, moi-même je serai l'acteur. L'Éternel t'arrachera de ta place. Et pour toucher son orgueil, Dieu lui dit, il prendra quelqu'un de moindre qualité. Et Dieu lui cite même les noms. Il dit à Shebna, non seulement je vais t'enlever, mais il parle de quelqu'un qui travaillait à ses côtés, qui l'ont méprisé. Il dit, en ces jours-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Ilkija. Il dit, je le revêtirai de ta tunique. Ce que toi tu portais, je vais le lui donner. Il dit, je mettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Voici ce que Dieu peut faire quand l'orgueil s'invite. C'est pourquoi ma prière et le vœu de mon cœur est que il puisse y avoir un réveil, mais un réveil de l'humilité dans le ministère ici. Que l'humilité revienne parmi le peuple de Dieu. Que l'humilité revienne à la chair. Que l'humilité revienne dans nos églises. Huitième notion, que j'érige aussi en principe, c'est que l'orgueil étant attaché à l'égoïsme, entraîne toujours à la jalousie. L'orgueil étant attaché à l'égoïsme. L'orgueilleux, tout est centré sur lui. Cela entraîne à la jalousie. C'est-à-dire, l'orgueilleux souffre de voir quelqu'un d'autre recevoir les honneurs, les éloges qu'il aurait voulu être le seul à recevoir. Le feu pasteur Vernon me parle un jour au bureau, il dira, Roland, la maturité d'un serviteur de Dieu se mesure à sa capacité à supporter l'élévation de l'autre. Qu'est-ce que tu fais quand on vante l'autre? Qu'est-ce que tu ressens quand on dit du bien de l'autre? On sait voir que tu n'es pas content. Tu as un sourire jaune. Au moins, matin, ils allaient bien. Mais les gens peuvent voir où c'est pelleté. Et dès que tu quittes, tu commences à corriger. Bon, atteille bien. Mais introduction, là. Fala, mi mango boy. Qui t'a posé la question? Orgueil et jalousie. 1 Samuel 18, verset 8 à 9. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1 000. Il voulait l'inverse. Il voulait soit que l'on donne rien à David, mais si on faisait l'inverse, les problèmes ne se poseraient pas. On en donne 10 000 à David. Tu aimes qu'on donne combien à l'autre? Et c'est à moi que l'on donne 1 000. Younani. Donc, ce qu'il veut dire, vous avez donné à la mauvaise personne. Ce qu'il fallait que ça me revienne à moi, vous avez donné à quelqu'un d'autre. Et le verset 9 dit, et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et dans la suite. Une chose pour laquelle j'ai toujours béni Dieu, c'est qu'il n'a jamais exposé nos cœurs aux yeux des gens. Si Dieu permettait que nos cœurs soient exposés, ou bien au pire, ou à ma copine. C'était bien la prédication de mon témoignage. Dieu merci, il n'expose pas nos cœurs. Si le cœur était exposé, ton voisin de gauche, là, tu apprendrais des choses. Parce que celui de droite, il est bien, bien, bien. Là où l'orgueil ne s'invite pas, on a un sentiment de sécurité. Ce sentiment de sécurité fait qu'on ne souffre pas en voyant l'autre avoir. J'aime ces merveilleux textes de Nombres chapitre 11, versets 26 à 29. L'Abbé dit, il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Medab, qui étaient restés dans les camps, Nombre 11, 26 à 27, et sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Dieu avait donné rendez-vous à la tente, les mêmes esprits qu'il y a sur Moïse, je le mettrai. Et certains ne sont pas venus. Mais en réalité, ils ne sont pas venus, l'Esprit les a poursuivis là-bas. Et ils se sont mis à prophétiser, à poser les mêmes actes que ceux qui étaient venus. Écoutez le verset 27. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Medad prophétisent dans les camps. Écoutez le verset 28. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit à Moïse, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Kangabango. J'aime la réponse de Moïse au verset 29. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé des prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Qu'est-ce que tu ressens quand quelqu'un a ce que tu aurais voulu avoir? Mais l'orgueilleux souffre de voir cela. Neuvième notion, que nous érigeons aussi en principe, c'est que plusieurs raisons amènent les gens à être orgueilleux. Et la plupart des fois, des raisons que l'on ignore, consciemment, on ne sait pas pourquoi on est orgueilleux. Premièrement, la plupart des fois, l'orgueil est un sentiment existant à l'intérieur, mais qui trouve des moyens pour son expression à l'extérieur, à cause des acquis. Ça, c'est la première des causes. Ces sentiments ont toujours été là présents, mais qui cherchent des moyens extérieurs. Et parmi ces moyens, reconnaissance dans les ministères, des voyages que l'on fait pour cause de l'évangile, qualité des messages, surnaturel. Ces sentiments ont toujours été là, mais à chaque fois manqué un fondement. Désormais, quand tu prêches, tu dis, wow! Quelle profondeur! Comme j'ai assisté à cette scène il y a plusieurs années, de lundi à vendredi, il y avait toute une semaine de prières. Il y avait des conducteurs, des modérateurs qui conduisaient. Lundi, c'était quelqu'un d'autre, c'était bien. Mardi, mercredi, jeudi. Et chaque fois, les soirs, on s'est retrouvés pour faire un peu l'évaluation. Et c'est vrai, vendredi, on avait prévu notre meilleur modérateur. C'était le meilleur. Et le jeudi, quand on a fini, il a mis la main dans les poches et il bougeait sa tête. Il disait à Linga, il a dit, bah, 4 jours au Nyonso. Il a dit, modération est pesquine. Modération, l'objet est à la Bundesliga, championnat allemand. Donc tout ce qu'il y a eu comme modération, c'est Epechkin, le champion de Kinshasa, qui se joue au stade du 24 novembre. Mais lobby, Bundesliga. J'ai vu un prédicateur, ils étaient alignés en convention, et il a dit, convention, ça est Mikoloboni. On dit 5 jours. Ma prédicateur, il a dit 5, il dit ok. Mikolonion, ce boulia qui est Lyoto. Il veut rouler dans un grand hôtel avec chef français. Ah, trop conscient de ses aptitudes. Je prêche bien. Je fais ci, si, je fais cela. Autre chose, deuxième, quelquefois c'est un sentiment inexistant chez nous, mais qui est créé par un excès de louanges et de gloire accordée. Il arrive de fois que ce sentiment d'orgueil est inexistant chez nous. Il nous semble, oui. Mais on te chante tellement les corbeaux et les renards. Yonde oleki bango. C'est pour ça que j'aimerais dire, bandi, mais vous battez la rabisson. Kinshasa, c'est ça, bébal, l'homme à la langue brûlée. Les chandeliers. Les roseaux. Ah! Mouté, il y a sa remise à combo. L'homme du retour à la. Papa, mais tu dis aux aranani. Papa, on aurait nous dit comme on Moussous, les verbes. Les germes. Oh. Vous battez la bisson. Aide-moi à dire à ton voisin, tu battes la bacambi la bisson. Comme je dis, quelquefois, c'est un sentiment inexistant, mais qui est créé par un excès de louanges. J'ai vu des interprètes ne plus être des interprètes. Général! Il n'interprète plus. Quelle sagesse! Quelle profondeur! Comment rester les mêmes quand on te dit ça? Vous savez, tous, nous ne réagissons pas de la même manière devant la louange et devant la gloire. Certains savent rester les mêmes, mais d'autres, pas toujours. Je me souviens, j'arrive en sortant de ma campagne. Ah, ces jeunes gens, ils sont forts. Ils m'ont vu passer, Pasteur Roland. Et il s'éloigne presque, il dit, cet homme, il verra le Seigneur. Pas un terrible banane. Il s'éloigne. Cet homme, il fera le Seigneur. On dirait que c'est liste. Un jour, je me suis arrêté en embouteillage. J'ai quitté mon magasin. Un qui tape. Il a insisté. Je ne voulais pas appeler. Il dit, pasteur, il y a un seul roté. Il y a un pasteur. Il y a un certains peuvent ne pas être ébranlés par ça. Mais d'autres, dès qu'ils descendent, ils se sentent plus importants. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 21 à 23, nous parle d'Hérode, revêtu de ses habits royaux, assis sur son trône, haranguant le public. Et la Bible dit, le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non pas d'un homme. Vous savez, quelquefois, nous n'avons pas la capacité de contrôler la bouche des gens. Mais j'aimerais insister, quel que soit ce qu'ils disent, nous pouvons contrôler notre cœur. Nous pouvons empêcher les propos qu'ils prononcent puissent nous envahir. Nous ne pouvons pas toujours les empêcher de parler. La Bible dit, au même instant, un ange du Seigneur les frappa. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas donné gloire à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 12, nous voyons Pierre ainsi que Jean bien gérer cela. Quand ils ont accompli un miracle par la grâce de Dieu, les gens les placent sur un pied d'estrade. J'aime la réaction de Pierre. Écoutez comment Pierre dit, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous étions fait marcher cet homme? Parce que ces hommes ne faisaient plus de Dieu la source, c'était eux. Ah, combien c'est pas toujours facile. J'ai terminé de prêcher ce jour-là à l'université de Kinshasa, à l'amphithéâtre, Dieu s'est manifesté. Waouh! Vous savez, il y a des jours où vous devez vous convaincre que Dieu est là, il est avec vous. Mais il y a des jours où vous savez qu'il est là. Une réunion glorieuse, glorieuse. J'ai levé la main comme ça, les gens partaient. Je me souviens, la réunion finie. Je venais simplement pour sortir. Les gens tombaient comme si on les poussait. Et juste avant que je ne rentre dans la voiture, un jeune homme m'a tapé à la fenêtre. Pasteur, ne pars pas. J'ai fait descendre et dit, mon rêve a toujours été de te saluer. J'ai dit, les gens commencent à avoir comme rêve de me saluer. Mon rêve, c'est de te saluer. Na lota na pesa ombote. Na bimfumu zambi mona papa Henri. Et puis je lui tends la main, je le salue, je dis que Dieu te bénisse. Quand il s'est retourné, il a dit à son ami, na osala 3 jours na skola mabokote. Na pesa Roland dalombote. Si tu n'es pas fort, tu regardes ta main, tu dis, Donazalaro, qu'est-ce que tu fais? C'est que Dieu permet que ça se passe par toi. En général, je me suis rendu compte, mieux l'on gère la gloire, plus Dieu vous donne. Il y a une dame, dans sa vie, dans son ministère, les surnaturels se manifestent avec efficacité, Catherine Kuhlmann. Mais Dieu ne faisait qu'ajouter parce qu'elle ne voulait jamais s'en accaparer. Jamais. Jamais. Il y a des gens qui font peu, mais qui en parlent beaucoup. Il a prié pour quelqu'un enrhumé, l'obin a Facebook. Tout le monde voyait là. 2 personnes rhumées quand même. Mais comment va reporter Yabangoumoko? Hier, j'ai prêché à Pompage des signes et des miracles. Oui, paralytique, on marche. Acte 14, versets 11 à 15 et puis 18, on parle de l'attitude de Paul ainsi que de Barnabas après un miracle. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Est-ce que c'est pas bien que nous avons? Ils appelèrent Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Il avait une montre qu'il voulait même leur offrir des sacrifices. Mais j'aime les versets 14. Les apôtres Paul et Barnabas, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. J'aime ce qu'il dit. Hommes, pourquoi jugez-vous de la sorte? Nous sommes des hommes de la même nature que vous. Les autres les placent là-bas. Eux-mêmes, ils se dévaluent. Ils reviennent. Ils se mettent aux armes. Et ils disent des dieux. Des dieux sous forme humaine. Et ils disent non. Nous sommes des hommes de la même nature. À un certain moment, ce n'était pas Motonanjambe. Motonjambe. Motonjambe. Homme Dieu. Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que tout. Troisième cause ou troisième raison qui fait que les gens des fois puissent être orgueilleux sont les blessures intérieures. C'est pour ça que les blessures de la vie doivent être soignées. Et là, j'en parle un peu par expérience d'une vingtaine d'années dans les ministères. L'orgueil d'aujourd'hui tire toujours sa source dans les passés et ses expériences. Des personnes négligées hier, des personnes écrasées dans leur enfance, jugées, trouvées bonnes à rien. Et quand Dieu, par sa grâce, il dit, je vais les consoler, je vais lui donner, c'est comme s'il veut prendre une revanche sur la vie. Blessé, que des ambitions qui sont basées sur des blessures. Ce que tu vis, ce n'est même pas l'édification. C'est simplement aller prendre une revanche. Seigneur, épargne-moi de cela. Écrasé dans son enfance. Personne n'ayant grandi avec des complexes et que l'on méprisait ouvertement. Et subitement, Dieu fait des choses. Paroles de connaissance. Miracles. La plupart des fois, ils ne sont pas capables de gérer cela. C'est pourquoi tu dois prier, Seigneur, si j'ai été blessé, guéris-moi. Enfin, que cela ne soit pas la base d'un certain comportement. La quatrième cause, c'est l'ambition exagérée et un esprit de compétition. Et cet esprit de compétition peut être caché ou ouvert. J'ai souvent insisté, homme de Dieu, femme de Dieu, quand nous montons sur la chaire, soit pour prêcher, soit pour faire chanter, je nous supplie que cet endroit ne soit point un endroit de compétition, mais un endroit d'édification. Ne monte jamais pour montrer que tu fais mieux que, tu fais plus que. Ayam, on dirait que dimanche passé, dimanche, je vais vous dire, Seigneur, ton du sang a une nuance. Alors, hier, sur le coup, les contenus de nos opéras, nous avons aussi le mot au cataté. Au soupe, ça le roule à Pavarotti. Et ton gagne soit. Et quand tu descends, ils sont montés, ils sont montés, papa. Mais dans ton cœur, tu dis, l'obal est ambition. S'il est bon que l'excellence doit être notre objectif, ne cherchons jamais à faire mieux que, dans le but de faire oublier ou de faire plus que. Dixième notion que nous érigeons aussi, en principe, avant de toucher la onzième et dernière notion, c'est que personne d'entre nous n'est à l'abri de l'orgueil. J'aimerais le dire à Lingala, Mangouele, il y a le lin de Salaraté. Quand on était petit, on dirait la rougeole va venir, allez. Il y avait des trucs comme des revolvers. Tchou! Quand ça va venir, tu sais que ça ne va pas te toucher. Personne d'entre nous n'est à l'abri de l'orgueil. Et nana les vaccins. Devant ce fléau, il y a la part de Dieu, mais il y a et il y aura toujours aussi ma part. La discipline, les barricades que je place autour de mon cœur, la sagesse, ainsi que la prudence, il y a des louanges qu'il faut arrêter. Il y a des choses qu'il faut arrêter dès le départ. De Corinthiens chapitre 12, verset 7, c'est Paul lui-même qui parle. Il dit, je connais un homme, voilà ce que Dieu lui a donné, Dieu lui a permis de voir ceci. Et lui-même, il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Donc Dieu lui-même voit, il dit, vu tout ce que j'ai permis qu'il connaisse, il y a la possibilité qu'il devienne orgueilleux. Pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence des révélations. Dieu dit, il connaît tellement plus que les autres qu'il y a possibilité. Et Dieu voit cette possibilité. J'aimerais que toi et moi, nous puissions être sincères avec nous-mêmes chaque fois. Tu l'as vaincu hier, mais il faudra encore les vaincre aujourd'hui. Les vaincre encore demain. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence des révélations, il m'a mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan, il dit, pour me souffléter et pour m'empêcher de m'enorgueillir. Dieu a dit ce que je mis en lui. J'ai lu la biographie de William Marion Branham, un homme de Dieu, surtout au début de son ministère. Mais ce qu'il a tué, c'est les grandes capacités que Dieu lui a données. C'est un homme, waouh. Quand vous lisez ses biographies, j'ai lu une fois, semble, il sortait avec son véhicule, il sort simplement et il roulait. Il a démarré quasiment à 80 à l'heure, il a cogné un enfant. Et l'enfant s'est coupé en 6 morceaux. Les gens tremblaient. Il est descendu du véhicule, il a pris les 6 morceaux et les a placés. Il a prié, l'enfant s'est relevé. Un homme que Dieu a utilisé d'une manière fantastique. C'est pour cela, plus Dieu vous utilise, plus demandez à Dieu de travailler votre caractère. Le pasteur Tourneur a dit cette belle phrase que je n'ai jamais oubliée. Il dit, quand vous avez des dons très élevés et que vous avez des caractères sous-développés, le caractère va tuer les dons. Il y a des fois des prières que vous faites sincèrement, mais sincèrement aussi Dieu ne vous donne pas. Dieu dit, pétueux, gaga. Moi, ça c'est mis à bouti. T'as un changé de démarche l'église. Comme t'as le pasteur Nyoso, ma vieux prophète. Ici, c'est la nouvelle génération. Dieu dit, et si je le fais ressusciter un mort? Maman, on a regardé depuis à bouti, t'as un bouti. Parce que l'onction ne menace pas l'église. Dieu dit, Nazo bat la lingomba nangaye, hein. Je protège mon église et je ne veux pas qu'elle soit disloquée. C'est pour cela, sincèrement, malgré que tu demandes, sincèrement, je ne te donnerai pas. Je lève mes mains en cette fin de matinée. Seigneur, s'il y a un orgueilleux ici qui te demande des choses encore plus, n'a bon de lui, on peut le couper ça et n'a comme on a eu soi-même. Ah, souka vema wana. Le jeune prédicateur, particulièrement à vendredi moko, ou quand il réveille dans une église. J'aime beaucoup ce qu'un ami a fait. Un jeune homme trop ambitieux. Allez, il prêche bien. Matayande Yango. Le pasteur dit, comment vous avez trouvé? Oh non, très bien. Frère, tu peux encore prêcher dimanche prochain? Asongi Sosazina Bakar Touchakala. Dimanche, il a dit, frère, est-ce que tu peux encore prêcher dimanche? Bah, tu sais, 4 dimanche, 5e dimanche, pasteur, je suis malade. Les meilleurs prédicateurs sont des prédicateurs occasionnels. Batikeli Rote à dimanche, 4 jours. 4 jours, la Zamba. Parce que Batikeli l'église, 20 ans. Chaque fois, on a 4 jours, la Zamba. Ma vie, on a dit, ma vie, Gaou, c'est là. Et aussi la baromatso dimanche, on dit RIA! Bah, tout va bien? Pour mater et sili. C'est pas toujours facile de rester la même personne lorsque tout ce que vous faites réussit. Lorsque tout ce que vous dites est trouvé spécial. Comment rester la même personne quand, comme Christ dans Marc 1, 27, vous accomplissez une œuvre et tout le monde réagit d'une certaine manière. Là-bas, il dit, tous furent saisis de stupéfaction, de telle sorte qu'ils se dirent les uns les autres, qu'est-ce donc ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, ils lui obéissent. Comment reste la même personne quand il y a une telle publicité qui est faite? Et vous entendez cela? Comment rester la même personne quand, comme Christ, vous attirez des foules? Marc 1, 32 à 33 dit, le soir après le coucher du soleil, on lui amena les malades et les démoniaques. Et le verset 33 dit, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il y avait des pharisiens, il y avait des scribes, mais tout le monde. Comment rester la même personne quand vous êtes 10 pasteurs dans une église et devant votre bureau, il y a 500. Et devant les autres, il y a des mouches et des moustiques. Et malgré que vous les envoyez, frère, beaucoup ne baissera pas votre tête, c'est la caca. Comment rester la même personne? Comment rester la même personne quand, comme Christ, vous entendez ce que Marc 1, 37 dit? Tous te cherchent. Tous te cherchent. On ne cherche que toi. C'est toi qui fais la différence. Comment rester la même personne? Comment rester la même personne quand, comme Christ, dans Marc 2, 12, après que tu aies fait quelque chose, les gens s'écrient, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Avant toi, on n'a jamais vu ça. Jamais entendu. Comment rester la même personne? Comment rester la même personne quand des choses que tu ne veux pas te sont imposées? Marc 3, verset 10 dit, comme Jésus guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour les toucher. Comment rester la même personne? Il se jette. Comment rester la même personne quand tu calmes la tempête et que ceux qui sont avec toi découvrent des aspects ignorés et ils disent, qui est donc celui-ci à qui obéissent même les vents? Comment rester la même personne? Comment faire pour rester la même personne quand les grands entendent parler de toi et toi aussi tu le sais? Marc 6, verset 14, les rois Hérode ont entendu parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre. Comment rester la même personne? Comment rester la même personne quand, comme Christ, on expérimente ce que Marc 6, 54 à 56 dit. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcourut tous les environs et l'on se mit à porter les malades sur les lits, partout où l'on apprenait qu'il était. Et en quelques lieux qu'il arrivait, dans quelques villages, dans les villes ou dans les campagnes, la Bible dit, on mettait des malades sur des places publiques. On les priait de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tout ce qui les touchait était guéri. Comment rester la même personne? Comment rester la même personne quand les grands et les sommités de votre région, de votre pays, de votre ville viennent vers vous et les gens le savent? Jean chapitre 3, verset 1 à 2. Nicodème, le grand, vient voir Jésus la nuit. L'orgueilleux, il en parlera. Ah, vous savez, Dieu est en train de nous élever, hein? Vous savez qui est venu nous voir hier? Je ne vous dirai pas. Comment rester la même personne? Quand Luc chapitre 8 au verset 3 dit, des femmes spéciales venaient auprès de Jésus, dont Jeanne, la vie insiste, l'intendant d'Hérode. Pas n'importe quelle femme. Comment rester la même personne? Quand comme Philippe dans Actes 8, 27 à 39, vous baptisez un ministre éthiopien. Moi, j'ai le numéro personnel 2. Et après, 11e notion, nous érigeons aussi en principe, et la dernière notion, c'est que Dieu aime le contraire de l'orgueil, qui est l'humilité. Dieu aime le contraire de l'orgueil, qui est l'humilité. L'humilité, c'est un mélange de simplicité et de modestie. Seigneur, que la simplicité revienne dans ton église. Amen. Que la modestie revienne dans son église. Un mélange de simplicité et de modestie qui fait qu'on n'a pas une idée trop exagérée de son importance, même si on est important. Retenez bien ceci. L'humilité n'est ni le déni et encore moins un complexe d'infériorité. L'humilité, ce n'est pas nier ce que l'on est ou ce que l'on a. Mais c'est savoir ce que l'on est et ne pas rester sur ça. Ne pas trop prendre... Il y a des gens qui se prennent trop au sérieux. Il y a un pasteur, on l'a appelé pasteur, il dit, bon, on va référer au Tigelinan. Il fallait dire révérend pasteur. Ce n'est ni le déni, c'est le fait de refuser de connaître ce que l'on est ou ce que l'on a, et encore moins les complexes d'infériorité. Vous savez, les complexes d'infériorité sont négatifs. Dieu n'est pas d'accord avec les complexes d'infériorité. Plusieurs passages de la Bible nous vantent l'humilité. Proverbe 12 au verset 9, mieux vaut être dans une condition humble et avoir un serviteur que de faire les glorieux et de manquer le pain. Cela veut dire qu'il y a des gens qui font les glorieux. Proverbe 16 au verset 19, mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Romains chapitre 12 au verset 6, laissez-vous attirer par ce qui est humble, qui est un reflet de l'humilité dans ma nation, Seigneur. Mais j'aimerais aussi dire, il existe aussi une fausse humilité, une humilité fabriquée qui se plaît à être louée. C'est moi votre humble serviteur. Laisse-nous découvrir que tu es humble. Humilité fabriquée, factice, qui sert d'appât, créée. Quelqu'un dit l'humilité qui se plaît à être louée n'est pas de l'humilité. Colossiens chapitre 2, verset 18 dit qu'aucun sous une forme d'apparence d'humilité, comme pour dire, il y a des fois des humilités apparentes, comme un rôle au cinéma, comme le théâtre. Rien n'est vrai, rien n'est enraciné. De Samuel chapitre 15 au verset 5, nous parle de la fausse humilité d'Absalom, au fait qu'il n'était qu'un appât. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Non pas qu'il le respectait, mais il voulait discréditer quelqu'un d'autre et il voulait gagner. Fausse humilité. Alors notez ces dernières choses concernant l'humilité. La première, c'est que Dieu aime l'humilité. Dieu aime l'humilité. Matthieu 18, verset 4, C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Dieu aime l'humilité. Deuxième chose, c'est que l'humilité se travaille. Nous ne subissons jamais l'humilité. Elle se travaille. Philippiens chapitre 2, verset 3 ainsi que verset 8 dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs. Et parlant de Christ au verset 8, il dit, il s'est humilié. Ça ne nous tombe jamais. On travaille dessus et des fois contre notre nature. Troisième, c'est que l'humilité attire les bénédictions. Proverbe 29, verset 23 dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble obtient la gloire. L'humilité attire la bénédiction. Quatrième chose, c'est que la vraie humilité laisse les autres nous louer, nous élever et reconnaître nos mérites. Proverbe 27, verset 2 dit, qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Un autre, laisse les autres le faire. S'ils ne le font pas aux oublis, laisse-les oublier. Mais toi, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu as fait. Cinquième, c'est que l'orgueil et l'humilité peuvent être cachés aux yeux des hommes, mais jamais aux yeux de Dieu. Là où il y a l'orgueil, tu peux le cacher, mais Dieu voit. Et l'humilité, même quand les gens ne reconnaissent pas cela, Dieu reconnaît. Psaume 138 au verset 6, il avait dit, l'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Il n'a même pas besoin de se rapprocher. Il les reconnaît de loin. Il dit, celui-là est orgueilleux. Sixième, c'est que la protection contre l'orgueil peut nous être assurée par nos proches. Mari, femme, ami, collaborateur. Comme je l'ai dit, c'est un sentiment subtil. Celui qui l'héberge lui-même a difficile à reconnaître sa présence. Mais ceux qui sont tout autour peuvent reconnaître. C'est pour ça que si Dieu vous a placé à côté de quelqu'un et vous commencez à voir ces changements, rendez-lui service, parlez. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas se limiter à prier. Pasteur Roland, ma père comme ma tante Mingi, Nkolo Yomo kwa samosa na yo. Au bondeli, c'est ma ouye, entretien à bureau. Ou en balé, remarque na ou malam, na bon zambé na komi kiti ça. Pasteur na sepe la rano ma kaso, ça niti Yesu. Regardez Jésus. Avec les trois, les sept églises de l'Apocalypse, il commence jamais par des remarques. Louange d'abord et puis, pasteur en tout cas, zara pasteur malam, banana yeba yo, balo zara, mais pasteur. Nicolas, comme moi, Boulantoulou. N'a évité pas de gagner dans mon imabé, dans un moine. Mais parce que et c'est quelqu'un qui a des oreilles, il va entendre. Mais s'il manque, allez, il s'emporte encore. Tu es maudit! Ne touchez pas mes oins! Nos femmes se rendent compte. Non, chérie, tu parles désormais aux autres avec dédain. Nos maris se rendent compte. C'est pour ça que si Dieu nous place à côté, jouons notre rôle pleinement. Pleinement, pleinement. Et enfin, septième chose, quand Dieu trouve que l'orgueil grandit trop, il sait l'ôter de nos cœurs de plusieurs manières et des fois avec des méthodes fortes. Et l'une de ces méthodes, c'est l'échec. L'une de ces méthodes, c'est l'abaissement. Plus tu es trop élevé, plus Dieu ne laissera pas que tu connaisses un petit échec devant un petit public. S'il veut te ramener à la raison, il te fera connaître un grand échec. Il y avait un grand auditoire. Alors, tu as dit, non, je sais qu'on connaît sept témoins. Non. Mourmouroté en a parlé du peuple, il est échoué. Donc, qui dit que ma chère, ma moisson chérie, n'a qu'une retraite. Pour eux qui sonnent avec S majuscule. L'échec. C'est pour cela que j'élève encore, mais Seigneur, si un orgueilleux, je te supplie qu'il échoue la prochaine fois, que l'on abonde lieux. A échoué bien, bien, bien à combo na Yesu ngamo dans l'obé. Amen. Psaume 119, notez ce passage, verset 67, verset 71, et puis verset 75. Pardonnez-moi d'être belge, j'ai dû ça dire 71, 74, je risque de me perdre quelque part. Au verset 67, le psalmiste dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Avant d'avoir été rabaissé, le terme égaré là veut dire je gonflais trop. Quelquefois, Dieu, quand il voit que tu gonfles trop, il dit hey, remettons-les. Oyembaka, donc, Zamba, Bongi, Samoukwa, donc, Mungongwe Kangama. Qui tu accentes, Mungu? Batou, Batondi, Nalisanga, Batondi, Nalapuzette.
au matis qu'on goûte ça des divinations au cas on goûte changer ça on bloquait vraiment au risaki après voilà qui cinquième on est à qui deuxième tant au kiti on a quoi venir responsable par exemple à misa tu étais calibre donc on voyait pas parce qu'on a passé on a bisilé ah trois semaines maman a reçu une église parce que tu n'arrives plus à affronter les regards des gens parce que tout le monde te pas pourquoi les akiné au lingo qui m'a donné trois semaines un colo à l'ingalandé on est comme balasou il y a un temps qu'on tant qu'on zonga tant qu'on va macho avant hier au colo sunga mou les mots sont d'abord sur le colo sunga tout tout est réussi c'est tellement qu'on s'est dit qu'on s'en coloté un tour dans l'eau bien à zoya on a beaucoup de personnes qui sont en gagne. On a encore la CP, la Bible, on a d'autres. Au verset 71, le psalmiste dit il m'est bon d'avoir été humilié. Le terme bon là veut dire profitable. Ça m'a été profitable d'avoir été humilié. Ça m'a été profitable d'aller, d'avoir été abaissé. Au verset 75, il dit c'est par fidélité que tu m'as humilié. Waouh, c'est par fidélité. Et tu m'as humilié. J'aimerais terminer avec ces deux récits. Je sens dans mon cœur qu'on va d'abord prier. Tout à l'heure, j'inviterai mon ami Papa Honoré. J'inviterai Papa Félix Amoulin ainsi que Papa Honoré. Ils nous aideront à prier dans cette direction. Je n'ai jamais oublié cette scène. Le pasteur Alain peut s'en souvenir. Ouf! Et Bendé aussi sûrement. 92 au mois de février. Café chrétien de la jeunesse. Les cafés chrétiens qui suivaient la Dieu agissaient de manière merveilleuse. Et je me souviens, ces cafés chrétiens, la Dieu nous a donné des paroles. Des paralytiques vont marcher. Des aveugles vont voir. Je n'ai jamais oublié le vendredi, on s'est retrouvé en prière. Et à la chaîne de prière de l'autre côté, l'un de nous a élevé la voix et dit Satan, on m'a gambo. Sousa mobile a tembe, yaka samedi, l'obéo komona. Yé, Satan, et n'a eu mawa, yé. Ça vient des gens qui savent prier. Je me souviens ce jour-là, ces cafés chrétiens. Il y avait du monde comme si tout Kinshasa était à la borne. Et puis à un moment, on a vu, on a amené des paralytiques et nous tous ont frotté les mains. Notre aîné, le pasteur, veillait à prêcher un merveilleux message. Il a lancé l'appel, les gens sont venus recevoir Christ. Les gens pleuraient, mais pour nous tous, on les a guéris, ben, entrez. Et dès qu'on a dit, maintenant, que les paralytiques, les gens qui ont des problèmes viennent. Je n'ai jamais oublié ce petit garçon qui habitait Delvaux. Dès qu'on l'a placé dans Bisson, il s'est responsable de trouver la côte. Donc chacun voulait dire, ce que vous tambour, la tambour, la tienne en gagne. Vous savez, ces prières, on commence avec conviction. Moins ça marche, plus la voix baisse. Plus on commence à chercher. On avait commencé, lève-toi! L'un de nous était tellement fort, il a dit, bon, on l'a bendé. Mon soeur habitait tout ça, mais non, non. Son courant salé. Ton longoli m'a béni. Non, enlevé. Longoli moi, non. Au nom de Jésus, de l'autre côté. Au nom de 15 minutes de l'autre côté. 20 minutes, 30 minutes. L'un de nous a dit, un coup là, le bagarre au salé, mais ça le bagarre l'eau. J'ai jamais oublié. Les gens ont reçu Christ de délivrance. Ces jours-là, on est rentré à la chaîne de prière. Nkolo, yoksibiso, sol, Nkolo. On s'en fait ce bisou. Parce qu'on ne pouvait plus affronter cette famille. Parce qu'à la fin, il fallait raison que ça m'a bien dans mon abattu. Échec, des fois, il y aura bien. Il y a un abondé Nkolo. A échoué, Moutouana. Voisin de Konangawa. A échoué, a échoué. A yékola. Au nom de Jésus, il y a un seul matin. Yon de yon. Un ami du feu, pasteur Vernon, nous relate cette histoire. Il dit à ses amis qui avaient commencé timidement et que Dieu a commencé à élever, à utiliser. On a vu comment petit à petit il a commencé à changer. Lui qui était simple, désormais il avait un principe. Chaque église où il prêchait, il venait jamais avant. Il venait seulement 5 minutes avant la prédication. Et avant qu'il ne prêche, on devait annoncer, voici celui qui vient au nom du Seigneur. On devait lui donner son palmarès. Cet homme partout, il passe des signes, des prodiges et des miracles l'accompagnent. Et puis voilà, on l'a invité dans cette église 5 minutes avant. Il dit, il est entré, il marchait comme ces catcheurs congolais. Il disait, loin de Dieu. Et il est entré. Et toute l'église, partout les signes l'accompagnent.
regardait les gens, il couchait la tête. On lui a donné le micro. Il a ouvert la vue, il a demandé, cette église existe depuis combien de temps? On lui a dit 20 ans. Il dit, cette église n'a jamais commencé. Elle commence aujourd'hui avec ma prédication. Mais j'aimerais aussi vous dire que l'extraordinaire est ordinaire dans mon ministère. Le surnaturel est naturel. Et vous allez vivre cela. Ouvrez les livres des actes et vous vivrez ce que les actes disent tout à l'heure. Merveilleux message, il a prêché, waouh. Il a dit, fermez les yeux, les temps de l'esprit commencent. 5 minutes, aucun miracle. 10 minutes, aucun miracle. 15 minutes, aucun miracle. Il dit, tout le monde ferme les yeux. Personne n'a les yeux ouverts, tout le monde ferme les yeux. Tous ont fermé les yeux. Il prend le microphone, il dit au pasteur, pasteur, moi je pars, toi continue. Et il commence à sortir calmement. Il était presque sous le plan de réussir. À peine il voulait sortir à la porte, une vieille dame de 80 ans la toucha à l'épaule et dit, ainsi parle le Seigneur. Si tu étais entré comme tu es en train de sortir, Dieu t'aurait fait sortir comme tu es entré. Si tu étais entré comme tu es en train de sortir, Dieu t'aurait fait sortir. Aide-moi à dire à ton voisin, Tika Boulantoul, que Dieu bénisse sa parole.